Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
Vous écoutez
Martineau.
Cube Radio.
J'aime bien les historiens qui se spécialisent dans des champs d'études très, très précis. Allez dans une bonne librairie, vous trouverez une histoire de la propreté, une histoire de la virilité en 4 tomes. Philippe Ariès, qui était un grand historien, s'est intéressé toute sa vie à l'histoire des rites funéraires. Michel Foucault, qui a fait une histoire de la sexualité. Notre prochain invité, Denis Goulet, il est historien de la médecine. Je trouve ça totalement passionnant. Il est professeur associé à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Bonjour, Monsieur Goulet.
Bonjour, M. Martineau.
Alors, historien de la médecine, et on va parler justement des complots, des conspirations, parce que chaque fois qu'il y a une avancée, j'imagine, en science, en médecine, il y a des gens qui sont réfractaires.
Ah, toujours, oui, absolument. Et particulièrement dans le cas des grandes épidémies hein, qui ont marqué à la fois le 19e siècle et le 20e siècle, il y a toujours la recherche d'un bouc émissaire. Ça, c'est une constante qu'on retrouve. Par exemple, lorsqu'il y a eu une grande épidémie de variole à Montréal en 1885, ben, en fait, on s'accuse mutuellement d'être responsables, à la fois les anglophones ou les francophones. et quand il y a eu les grandes épidémies de choléra, ben, certaines élites canadiennes françaises accusent le pouvoir britannique, sont vus de vouloir diminuer la masse démographique des Canadiens français en introduisant certaines maladies par le commerce et par l'immigration. Donc, toujours des tensions qui sont liées, si on veut, à l'émergence de ces grandes pandémies-là.
Et là, aujourd'hui, on voit les vaccins comme étant une victoire incroyable de la science. Hein. On l'a vu en Afrique, on a enfin éradiqué la polio grâce à une campagne intensive de vaccination. Mais j'imagine au tout début, les premiers vaccins, est-ce qu'il y a des gens qui étaient un peu comme nos anti-vaccins d'aujourd'hui?
Ah oui, tout à fait. Il y a eu des réactions quand même assez vives. Hein. Le premier décret de vaccination obligatoire au Québec, ça a eu lieu en 1885, encore une fois pendant l'épidémie de variole. Et donc, c'était un vaccin antivariolique qui était bien connu. Mais il faut savoir qu'il y a eu des émeutes, hein, je le mentionne dans
le... Ah oui?
Oui, oui, la population s'est réunie. C'est pas l'ensemble de la population qui était contre, mais il y a quand même une bonne partie de la population qui craignait ce vaccin-là, avec raison, parce qu'on connaissait pas ce mode de prévention-là. Hein. C'était peu connu, on est en 1885. Et donc, il y a eu des émeutes, il y a eu des maisons saccagées, les forces de l'ordre ont été obligées d'intervenir. Donc, il y a eu des réactions assez vives, parce que ça s'est fait sans information, et ça s'est fait de façon abrupte. C'est lorsque... En fait, il faut dire que c'est le caractère autoritaire et, je dirais, arbitraire, même parfois trop rigide, des mesures sanitaires qui provoquent des réactions vives de la population.
Et parfois aussi, il y a effectivement eu des dérapages. Parlons du cas de la thalidomide, où c'était supposément un médicament miracle contre les nausées chez les femmes enceintes, je crois, et on a vu ce que ça a donné, là.
Oui, tout à fait. Et évidemment, il y a des erreurs médicales, mais la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où il y a des erreurs médicales, des contaminations non prévues, etc., ben la science médicale s'ajuste. Donc, on apprend de ces erreurs, et les protocoles deviennent de plus en plus sévères et de plus en plus stricts, si on veut. Et je pense que aujourd'hui, toutes les mesures sont prises pour que les vaccins qui sont diffusés dans la population ont passé l'épreuve de plusieurs tests de scientifiques. Donc, il n'y a pas lieu, à mon avis, de craindre la vaccination aujourd'hui.
Et on craint aussi à ce que des États trop puissants utilisent la médecine pour contrôler leur population, parce que, M. Goulet, on se souvient, en URSS, on envoyait les gens qui contestaient le communisme dans des hôpitaux psychiatriques. Là, on utilisait littéralement les médecins pour contrôler les gens.
Ah oui, ça s'est fait à plusieurs reprises dans l'histoire, malheureusement. Je pense qu'un des pires crimes contre l'humanité, c'est à l'époque du nazisme. Hein. Il y avait des médecins nazistes qui faisaient des expérimentations sur les Juifs, évidemment. Aussi, les Japonais aussi ont fait des expérimentations sur les prisonniers de guerre, notamment américains, en utilisant des virus, en faisant des expérimentations à partir de virus. Et la plupart de ces pauvre cobaye décédait de maladie. Hein. Ça s'est produit à plusieurs reprises. Lorsque, je souligne aussi, lorsque le sida est apparu, les Soviétiques, à l'époque, accusaient les Américains d'avoir fabriqué le virus du sida en laboratoire. Et à l'inverse, les Américains accusaient les Soviétiques d'avoir fabriqué ce rétrovirus en laboratoire. Et ça finalement, c'est toujours la même rengaine. C'est les thèses du complot qu'on trouve encore aujourd'hui.
Donc, avec votre regard d'historien, quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, il y a des précédents, tout ça, là.
Oui, il y a des précédents. Mais en même temps, je dois souligner une chose, c'est que c'est la première fois dans l'histoire que les autorités, un peu partout dans le monde, décrètent le port du masque obligatoire pour l'ensemble de la population. Ça, c'est une première dans l'histoire. Ça s'est jamais fait. Et il faut comprendre les réactions d'un certain groupe, d'un petit groupe de la population. C'est que quand une mesure comme ça survient de façon assez abrupte, entre guillemets, et c'est une première, on n'a jamais vécu ça, il y a toujours des résistances. L'autre élément différent par rapport aux pandémies antérieures, notamment par rapport à la grippe espagnole, c'est l'effet des réseaux sociaux. À l'époque, pensons à la grippe espagnole, début du siècle, les gens avaient peu de moyens de communication. Évidemment, il y avait des gens qui s'opposaient aux mesures sanitaires pendant la grippe espagnole, mais ils le faisaient autour d'une table, ils le faisaient entre amis, mais ils n'avaient pas accès aux journaux, ils n'avaient pas d'espace public pour s'exprimer. Alors qu'aujourd'hui, les gens qui sont contre les masques, qui sont contre les vaccins, etc., ont un espace public pour s'exprimer, et ça fait boule de neige, mais ça reste quand même des phénomènes marginaux.
Et je trouve ça passionnant ce que vous faites, là, historien de la médecine, et vous êtes professeur à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, donc vous apprenez l'histoire de la médecine aux futurs médecins.
Oui, tout à fait. Oui, et d'ailleurs, c'est assez intéressant de constater que la réaction est très, très, très positive. Hein. Il faut dire que c'est une histoire assez riche, puis c'est une histoire aussi ponctuée d'anecdotes, ponctuée de grandes controverses, mais aussi de grandes découvertes. Hein. Donc, c'est passionnant, en effet, oui.
Ben à l'époque, on se souvient, on voit des films historiques. Je regardais une série qui était les débuts de la médecine en Angleterre, où on opérait les gens dans un genre d'assemblée. Il y avait des gens présents aux opérations.
Oui, tout à fait, autour de ce qu'on appelait le théâtre anatomique.
Oui.
Et les étudiants en médecine entouraient le chirurgien qui pratiquait une intervention chirurgicale. Et à l'époque, on ne portait pas le masque. Et toute la question du masque aujourd'hui, c'est intéressant, parce que quand on pense à l'histoire de la médecine, eh bien, ça étonne personne qu'un chirurgien porte un masque lorsqu'il fait une intervention chirurgicale. Hein? Mais pourquoi porte-t-il le masque? C'est pour protéger le patient. Alors aujourd'hui, les autorités sanitaires disent aux gens, mais portez un masque lorsque vous allez dans un lieu fermé public, c'est pour protéger les autres. C'est la même. C'est la même chose. On n'imagine pas un chirurgien qui refuserait de porter un masque. Hein. Bon.
Et plus on explique, mieux on explique à la population les tenants et les aboutissants d'une décision, mieux cette décision-là est comprise et elle est acceptée.
Absolument. C'est le nerf de la guerre. Et quand on parle de lutte contre les maladies infectieuses, notamment dans les pays du tiers-monde, dans les pays défavorisés, eh bien, on dit toujours que c'est l'éducation qui permet de faire des grandes avancées. La vaccination aussi. Mais l'éducation, c'est vraiment le nerf de la guerre dans la lutte contre les maladies infectieuses.
Parce que je ne savais pas que nos médecins avaient des cours d'histoire de la médecine. C'est super, c'est fantastique. C'est Monsieur Denis Goulet, merci beaucoup.
Si vous me permettez, j'ai aussi écrit une histoire de la médecine
au
Québec avec Robert Gagnon, un bel ouvrage de 1800 à 2000. Donc, on fait vraiment le tour, si on veut, de cette grande histoire de la médecine au Québec, et notamment au niveau de la recherche, des grandes avancées, etc. Et donc, voilà.
Vous faites bien. Mais vous savez, en plus, je ne fais rien qu'une petite parenthèse, là. Les expériences qu'on faisait à l'Université McGill, là, où la CIA administrait du LSD à des malades, vous savez, au début, on pensait que c'était un complot, une théorie du complot, mais ça s'est avéré. Ça a vraiment existé, ces expériences-là.
Oh oui, ça a vraiment existé. C'était financé par la CIA. Dr. Cameron a reçu des fonds pendant plusieurs années. On en parle d'ailleurs dans notre ouvrage sur l'histoire de la médecine.
Bon, une bonne lecture de chevet.
Ah oui, absolument. Je vous invite sans prétention, là, je vous invite à lire cet ouvrage qui, je pense qu'on m'a dit qu'il était passionnant, mais enfin.
Je suis convaincu. Merci beaucoup, Denis Goulet. Merci.
C'était un plaisir.
Bonjour.